Oui, c'est pas mal glissant un peu partout. Visibilité réduite. Pat, qui prend le temps de m'écrire sur la messagerie de notre page Facebook, route 143, coin route 141 à Hirschcliff, direction Stansted, visibilité nulle, chaussée enneigée sur fond de glace. La totale, quoi. Merci, Pat. Également, rappelons cette fermeture d'une voie sur deux sur la 10 à la hauteur du kilomètre 123. C'est à la hauteur du cinéparc Orford. On est en direction ouest. Sortie de route violente. Ben, en tout cas, vilaine sortie de route là, d'un camion un 10 roues qu'on nous disait. Donc, un 10 roues qui s'est retrouvé même les roues en l'air, là. On a également camion de 53 pieds dans le clos, comme le dit l'auditeur, entre Compton et Coaticook, route 147. Sauf que ça n'a pas dû être le fun pour le conducteur ou la conductrice. D'ailleurs, je n'irai pas avoir des nouvelles de ces gens-là. D'abord et avant tout, qu'ils soient sains et saufs, qu'ils n'aient pas de blessés là, dans ces accidents qui surviennent depuis ce matin, parce qu'on commence à les additionner avec cette température. Puis, allumez vos phares également. Plusieurs auditeurs, auditrices qui prennent le temps de m'écrire là-dessus. Surtout lorsque la poudrerie est présente, que la visibilité est réduite. Faites-vous voir. Faites-vous voir. Est-ce qu'on verra Éric Salvaille comparaître, témoigner à son propre procès? On en est au jour 3 de ce procès. Il semble que là, la couronne est terminée. Ces témoignages. Et là, ben, c'est place à la défense. Philippe Bonneville est au palais de justice de Sherbrooke, de Montréal. Il suit ça pour nous, d'ailleurs. Bonjour, Philippe.
Salut, Martin.
Bon, Salvaille, va-t-il témoigner ou pas?
Et que j'aimerais pouvoir te répondre, mais je ne le sais pas encore. La stratégie du clan Salvaille n'a toujours pas été dévoilée, mais on s'approche du moment où on va savoir si oui ou non l'animateur déchu va décider de prendre la parole ou non. Parce que la défense a commencé ou va commencer à faire entendre ses propres témoins parce que, comme tu l'as dit, la couronne a conclu la présentation de sa preuve en fin d'avant-midi ici au Palais de justice de Montréal. C'est donc au tour de la défense, donc du clan Salvaille, d'étayer sa preuve, de faire comparaître des témoins et tout ça. Et là, l'avocat de d'Éric Salvaille, ce qu'il a dit, c'est « on a au moins un témoin à faire entendre ». On pensait qu'il dirait que c'est Éric Salvaille. Non, ouais. Il a dit « ce sera une fonctionnaire de Radio-Canada qui va venir témoigner cet après-midi ». Donc, il se réserve toujours la possibilité de faire entendre Éric Salvaille parce qu'il a dit « au moins un témoin ». Qu'est-ce que va venir dire cette fonctionnaire de Radio-Canada? On commence à s'en douter un peu ici. Parce que rappelle-toi, je pense que c'est la première journée du procès cette semaine. L'avocat d'Éric Salvaille avait laissé entendre et avait suggéré qu'Éric Salvaille ne travaillait même pas au service du courrier de Radio-Canada en 1993, donc au moment où les gestes auraient été commis. On pense qu'avec la preuve documentaire, avec des documents, l'avocat d'Éric Salvaille va vouloir faire dire à cette personne de Radio-Canada, cette fonctionnaire, qu'il ne travaillait effectivement pas au service de la paye. Est-ce qu'il travaillait au service de la documentation, au costume, au décor? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Okay. Mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui sont venues dire, pendant le procès depuis 2 jours et demi, qui travaillait à ce moment-là, qui était en formation pour devenir, pour travailler au service de la paye. Donc là, ça va être la parole de un contre la parole de l'autre, probablement.
Oui, et c'est... Mais, tu sais, on pourrait dire que la stratégie de la défense est particulière. En n'annonçant pas d'avance les témoins, même si l'accusé, à savoir si l'accusé va comparaître ou pas, mais lorsqu'on parle à certains avocats d'expérience, il y a rien de particulier là-dedans. Ça fait partie aussi d'une certaine stratégie de défense de dire, regardez, vous aurez les témoins lorsqu'ils seront appelés.
Oui, c'est pratiquement toujours comme ça dans des procès criminels. Au civil, c'est complètement différent. Ouais. Mais au criminel, la défense n'a jamais à dévoiler à l'avance sa stratégie. La défense n'a même pas à dire s'il y aura présentation d'une défense dans le cadre d'un procès criminel. La couronne doit tout dévoiler. La défense n'a rien à dévoiler. Donc, c'est pas exceptionnel. Et évidemment, dans un choix stratégique, parfois, les avocats ne savent même pas avant le milieu du procès si si l'accusé va, oui ou non, prendre la parole. Ça dépend de la stratégie, ça dépend des autres témoins présentés par la couronne. Ouais. Donc, on se réserve toujours le choix de témoigner ou de ne pas témoigner. Dans ce cas-ci, on ne le sait toujours pas, mais probablement qu'à la suite du témoignage de cette fonctionnaire de Radio-Canada, on devrait annoncer du côté de la défense si oui ou non il va prendre la parole et venir témoigner, livrer sa version des faits. Encore là...
Ouais.
Il y a des avantages à témoigner. Hein,
oh oui.
On lit la version des faits.
Il y a des désavantages également lorsque contre-interrogé. Puis, tu sais, on l'a vu quand même dans le contre-interrogatoire hier du plaignant dans ce dossier-là par l'avocat de Salvaille, où l'avocat de Salvaille a été assez dur à l'endroit donc de la présumée victime. Mais pour certaines personnes, parce que moi, j'ai des auditeurs qui m'ont écrit pour me dire... On vient d'ébranler la version du plaignant. Alors, tu vois que dans la perception pour certaines personnes de ce qu'on a révélé hier avec certaines petites contradictions, mais également certains détails, le fameux courriel sur sa procureure, tout ça, ben pour certaines personnes, on est venu ébranler carrément la version et la crédibilité du témoin.
Ouais, et là, on n'est pas dans la tête du juge, bien évidemment. Le juge, lui, se fie seulement sur le droit pour déterminer si oui ou non la crédibilité du témoin a été, disons, entachée par ces révélations-là. Mmh. Mais en même temps, oui, ça fait preuve de son caractère peut-être bouillant. Là. Les courriels où il traite sa procureure d'incompétente, une avocate des ligues mineures qu'il n'a pas confiance en elle, ça démontre, oui, qu'il est bouillant, lorsqu'il est contrarié, il peut réagir fortement, quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça change quelque chose au fait qu'il aurait été agressé sexuellement dans une salle de bain il y a 27 ans? Mm. Là, c'est ça aussi. Là. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que sa version tient moins la route parce qu'il a envoyé un courriel comme ça? Ça, c'est de savoir là, si ça a eu un impact ou non. Il y a seulement le juge qui peut le savoir si, oui ou non, à son avis, cette version-là tient encore la route ou si elle ne tient plus la route.
Oui, bien, c'est dans la suite des choses qu'on va le savoir et c'est en suivant vos reportages, M. Bonneville. Merci d'avoir été là.
Ça fait plaisir, au revoir.
Salut, Philippe Bonneville.